crois sincèrement que le tableau est autant fait par le regardeur que par l'artiste.
Les regardeurs.
Come and go with me.
Ils ont marqué notre sensibilité en découvrant ou commentant des chefs-d'œuvre qui depuis appartiennent à l'histoire de l'humanité. Ce sont les regardeurs. Aujourd'hui, nous observons un chef-d'œuvre de Kurt Schwitters, connu sous le nom de Merzbau, commencée en 1923 dans sa maison à Hanovre et détruite en 1943 lors des bombardements en Allemagne. Kurt Schwitters réagit à Dada en 1920 en fondant un nouveau mouvement qu'il dénomme Merz. Par ses travaux, il cherche à fonder un ordre esthétique remplaçant l'environnement détruit par la guerre. Tout était en ruine de toute façon, et créer du nouveau à partir de débris avait une signification. Voilà ce qu'était Merz, confie-t-il. Merz cherche en effet à s'approprier les rebuts de la société industrielle et urbaine, faisant entrer la réalité quotidienne dans l'art, sans idée de message politique ou d'esthétique d'opposition, mais avec la volonté à partir de 1920 de fonder un art total Merz, embrassant l'architecture, le théâtre et la poésie. Dans les années 20, dans sa maison de Hanovre, il entreprend de construire une vaste structure dans laquelle s'encastrent dans des cavités ses œuvres et celles de ses amis. La construction envahit peu à peu toutes les pièces et même tous les étages de la maison et l'artiste lui donne le nom de Merzbau, ce qui veut dire construction Merz. Le premier Merzbau fait à peu près 9 mètres carrés. Il est constitué d'une colonne qui traverse les deux étages de l'immeuble et dans les descriptions fournies par Schwitters, cette partie de l'édifice est nommée cathédrale de la misère érotique. Écoutons l'artiste décrire cette cathédrale.
Le nom cathédrale de la misère érotique est une simple dénomination. Il ne concerne en rien le contenu ou très peu, mais il partage ce destin avec toutes les dénominations. Par exemple, Düsseldorf n'est plus un village et Schopenhauer n'est pas un ivrogne. On pourrait dire que la cathédrale de la misère érotique est la mise en forme pure, à quelques exceptions près, de toutes les choses importantes ou non des 7 dernières années de ma vie, dans laquelle cependant s'est glissée une certaine expression littéraire. Elle était dotée autrefois d'un vaste réseau d'éclairage, mais qui a été détruit par un court-circuit à l'intérieur. Il a été remplacé par des lumières dans l'édifice. Il s'agit de petites bougies de Noël qui, lors des travaux d'aménagement et de peinture, servent à éclairer les coins obscurs. Mais elles ne font pas, à proprement parler, partie intégrante de la construction. Quand elles sont allumées, elles donnent à l'ensemble l'apparence d'un arbre de Noël à la fois irréel et illuminé. Kurt Schwitters, Cathédrale de la misère érotique, 1931.
Et pour parler de cette œuvre, je reçois aujourd'hui l'artiste Céleste Boursier-Mougenot. Bonjour Céleste.
Bonjour Jean.
Comment allez-vous ?
Très bien, merci.
Vous êtes en train de préparer des expositions complexes ?
Oui.
Comme souvent cette année. Hein ? Donc pour ceux qui ne vous connaissent pas, je précise que vos travaux qui sont présentés depuis 20 ans dans les lieux d'art contemporain en France comme à l'étranger sont à considérer ou ont souvent été considérés comme des travaux plastiques d'un musicien. Et après avoir été de 85 à 94, je crois, le compositeur de la compagnie Side One Posthume Théâtre de l'auteur et metteur en scène Pascal Rambert, vous avez entrepris de donner une forme autonome à votre musique en réalisant des installations.
Tout cela est vrai.
C'est un peu ce qui vous rapproche peut-être de Schwitters, qui lui aussi avait une passion pour la musique, la poésie, l'architecture, la typographie, était un artiste complet. Vous avez été le premier artiste, chère Céleste, lauréat de l'International Studio Programme, qu'on appelle PS1 à New York en 98. Et on a pu voir votre travail récemment à Melbourne en 2013 et cette année récemment
à la Biennale de Venise, vous avez présenté une installation extraordinaire qui était l'installation du pavillon français, ce qui évidemment est une lourde responsabilité. Comment s'appelait cette installation ?
Cette installation s'appelle Révolution, et au pluriel, avec un accent circonflexe.
Révolution, et donc nos auditeurs pourront la voir jusqu'au mois de novembre. Vous avez réalisé récemment, puisque c'était d'ailleurs Emma Lavigne, la directrice du Centre Pompidou-Metz, qui était votre commissaire à Venise, vous avez également réalisé, qui est visible en ce moment, au Centre Pompidou-Metz, une autre œuvre qui s'appelle...
Une autre œuvre qui s'appelle Clinamen, V2, version 2.
Et je dois dire que c'est un chef-d'œuvre, elle est constituée de bols qui s'entrechoquent et qui font une musique soigneuse.
Tout à fait. C'est une deuxième tentative pour faire un espace réellement constitué dans un espace ouvert, en fait.
Et vous ouvrez le 24 juin prochain une exposition Aqua Alta au fameux palais de Tokyo. Et donc, nous allons parler ensemble de Schwitters. Et pour nous soutenir, nous avons besoin d'un grand historien. Et ce grand historien est avec nous au téléphone et je le salue. Bonjour Marc Dachy. Je précise que vous êtes historien de l'art, passionné par le dadaïsme. Vous consacrez aux avant-gardes. Vous avez publié notamment le journal du mouvement Dada chez Skira en 89, qui a été grand prix du livre d'art. Dada, la révolte de l'art chez Gallimard Découverte. Vous avez traduit John Cage, Gertrude Stein, La Montée Young et Kurt Schwitters. Et vous avez été résident de la Villa Kujoyama à Kyoto en l'an 2000. Et vous venez de publier, c'est le sujet de cette émission, une œuvre qui s'appelle « La cathédrale de la misère érotique » aux éditions Sens et Tonka. Et nous allons regarder, commenter, grâce à vous et avec votre appui, l'ensemble de l'œuvre de Kurt Schwitters. Mais pour commencer, écoutons d'abord un de ses regardeurs historiques, Jean Harpe, parler justement du travail de son complice et ami, Schwitters. C'était en 1948.
Pour se mettre au travail, Schwitters changeait ses vêtements contre une longue chemise de nuit, décrochait son râtelier pour le déposer dans un verre d'eau tiède et se couvrait le chef d'un grand chapeau de brigand. Puis il mertzait à tour de bras. Après le travail, il aimait à se reposer dans son élégant salon Mertz. Un piano à queue lui servait à conserver ses pots de colle. La colle était un élément important dans l'art Mertz autant que l'œuf le fut à Colomb pour la découverte de l'Amérique. Dans un coin de son élégant salon Mertz, il avait placé une blanche maisonnette style Le Corbusier façonnée de ses propres mains. Il y avait logé ses cochons d'Inde. Dans son élégant salon Mertz, il aimait aussi à prendre un bain de pied de temps en temps. Avec un sourire pincé, il présentait alors à ses visiteurs ses grands pieds couleur de topaze fumée. Sa maison à Hanovre était percée de fond en comble de passages en puits de mine, de crevasses artificiellement créées à travers les étages, de tunnels en limaçon reliant la cave au toit. L'influence du style roi-soleil n'était évidemment pas prépondérante dans sa maison. Par un effort intense et soutenu pendant des années, il avait réussi à mertzer complètement son immeuble. Par ses creux, gouffres, abîmes, fentes, poussaient les monumentales colonnes Mertz, colonnes artistiquement dressées au moyen de planches, ferrailles rouillées, miroirs, roues, portraits de famille, ressorts, journaux, briques, ciments, chromos, plâtre, colle, beaucoup de colle. Beaucoup de colle. Ce monument s'emparait dans l'Ancien et le Nouveau Monde, ne donnait cependant aucunement l'impression de passe-temps d'un quinteux naïf. Bien au contraire, la beauté du rythme de cette œuvre l'apparentait au chef-d'œuvre du Louvre. Jean Harpe sur Kurt Schwitters, 1948.
Nous ne connaissons que très peu de photos et quelques témoignages de cette œuvre intime, et pourtant il s'agit probablement d'une des œuvres les plus riches de signification de l'art du XXe siècle. Le Merzbau, commencé à Hanovre en 1923, abandonné en 1937 lorsqu'il fuit l'Allemagne nazie, le Merzbau, ou cathédrale de la misère érotique, est une architecture intérieure a dans tous les sens du terme et qui se déploie dans toutes les dimensions de l'espace comme un organisme vivant. On aperçoit sur les trois photos d'époque des angles, des plans impeccablement jointoyés qui forment entre eux des niches et des supports et des flèches inversées, des stalactites sur lesquelles sont posés des objets, branches, sculptures, fragmentées parfois, tableaux, lettrages, dessins. Et il est difficile de dire si cet intérieur est futuriste ou moderniste ou dadaïste. Il est probablement simplement Mertz, pour répéter le nom que Kurt Schwitters a donné au mouvement inventé par lui dans la mouvance de Dada et dont il a souhaité être le seul représentant. Voyons donc l'énigme de cette construction disparue, qui est à la fois une cathédrale, un cénotaphe, un cabinet de curiosité, une expérience de réinvention de l'architecture urbaine et peut-être un manifeste antifasciste. Avec moi, Céleste Boursier-Mongenot. Bonjour Céleste.
Oui, bonjour Jean.
Dites-moi, comment ressentez-vous cette œuvre? Avez-vous l'impression que c'est une œuvre totalement autonome de son époque, indifférente à ce qui a lieu, une sorte d'œuvre construite autour de soi, ou est-ce que c'est une œuvre ouverte aux influences et au monde extérieur?
Il me semble que c'est une œuvre qui est vraiment construite par un esprit malade.
Oh, ça m'étonnerait que vous le pensiez, sincèrement. Je vois votre ironie. Donc, qu'est-ce que vous cachez derrière ces mots ironiques?
Je pense que c'est quelque chose d'incroyablement intrigant, en fait. Quelqu'un qui se met à construire quelque chose qui prolifère dans les pièces de son appartement et qui dépasse, qui en sort et qui... C'est passionnant de voir cette dimension organique en fait du travail, d'autant que il n'était pas simplement de la sculpture, d'après ce que j'en sais, mais qu'il était aussi comme vous l'avez dit, destiné à recevoir des formes de vie.
Alors à ce sujet-là, Marc Dachy, vous êtes avec nous?
Oui.
Merci Marc d'être avec nous et donc nous sommes au téléphone ensemble. Est-ce que vous pouvez me dire, lorsque Schwitters conçoit cette œuvre extraordinaire, le Merzbau, qui marque des générations d'artistes ensuite, il la conçoit pour lui, il reçoit à l'intérieur, elle était secrète ou elle était ouverte?
Oui, c'est une œuvre privée, en effet, mais dont il avait sans doute habilement calculé qu'elle serait connue et qu'elle était appelée à des développements importants, mais il n'avait évidemment pas prévu cette situation dramatique de la guerre et des bombardements, puisque les bombardements ont lieu en 1943 et le début de l'œuvre en 1923.
Oui.
Alors c'est une réponse assez ironique, inventive, en effet biographique et très personnelle à l'architecture du Bauhaus, d'un point de vue dadaïste.
Alors, excusez-moi Marc, mais c'est très frappant. Vous dites que c'est une œuvre qui est une réponse à l'architecture du Bauhaus, alors qu'on a l'impression que c'est une œuvre presque d'art brut, extrêmement libre, plus liée à l'expressionnisme ou à l'architecture expressionniste. Qu'en pensez-vous?
Oui, le côté expressionniste est patent, mais je trouve que le côté cubiste l'est encore plus. Quant à l'art brut, on peut y penser parce qu'il y a ce côté reclus, et parce que Schwitters, avec ses déchets et ses collages, a effrayé pas mal de ses contemporains. C'est quelqu'un qui a pris grand soin d'expliquer sa façon de composer, d'utiliser l'énergie, de disposer les couleurs, les formes. Avec cette phrase superbe, un artiste peut tout faire si seulement il s'est formé.
Formé.
Et il s'est formé.
Permettez-moi de poser la question à Céleste, j'aimerais qu'il réagisse là-dessus. Céleste Boursier-Mongenot, vous qui êtes artiste, l'artiste peut tout faire s'il sait former. Qu'est-ce que vous pensez de cette phrase?
Je crois que bien souvent, on est obligé d'inventer ses propres outils pour donner des formes.
Vous pensez que c'est ça qui s'est passé dans cette œuvre? Schwitters a inventé ses propres outils d'expression?
Ah, je pense, absolument.
Vous savez qu'il l'a répété après avoir été chassé par la montée du fascisme et du nazisme en 1937 d'Allemagne. Il est parti en Norvège, il a reconstitué à nouveau un autre Merzbau qui sera détruit à son tour. Et ensuite en Angleterre, il en a construit un troisième qui sera détruit, donc il ne sera pas détruit, mais que la vie ne lui a pas permis de l'achever. Et donc, c'est vraiment l'objet absolu de sa vie, de son travail. Qu'est-ce que vous paraît avoir d'original la construction du Merzbau?
Pour moi, c'est clairement un double métabolique. Et c'est assez surprenant. Quand il a commencé l'exil, il a toujours eu besoin de reconstituer une espèce de coquille, je dirais même une coquille pour un escargot, et sa carapace.
Dites-moi, Marc, encore une question là-dessus. Vous dites que c'est sa carapace, donc c'est ça, l'expression de sa vie intérieure et sa protection tout à la fois. Et pourtant, c'est aussi sans doute un manifeste d'architecture. Est-ce qu'on ne l'a pas lu comme une façon de réinventer l'architecture urbaine?
Bon, mais je suis content de votre question parce qu'évidemment, il faut absolument insister sur l'extrême beauté et la conception de cette œuvre. Et en effet, il l'a directement adressée à des interpellés, Mies van der Rohe, par exemple, avec cette œuvre. Et il leur a toujours dit, attention, votre architecture est trop fonctionnelle, elle ne peut pas être que fonctionnelle.
En fait, peu de gens savent, parce qu'on imagine Schwitters toujours du côté de Dada, mais peu de gens savent qu'effectivement, il a été au Bauhaus, il a rencontré Mies van der Rohe et les autres, et il a été considéré tout de suite comme quelqu'un qui avait des notions sérieuses d'architecture.
Oui, ils l'ont pris très au sérieux. Il aimait beaucoup les artistes de Bauhaus, de toute manière. Mais il faisait quand même partie d'une tentative de renouvellement du monde et du corps social, de ce que les gens utilisaient dans leur quotidienne. Et donc ça correspondait quand même profondément à l'idée de changer le monde.
Est-ce que vous pensez, Céleste, cette fois-ci, je vous demanderai de me donner votre point de vue, est-ce que vous pensez que, à cette époque-là, on avait la sensation de pouvoir changer le monde avec une expression plastique qui était aussi une expression intérieure, comme le rappelait Marc Dachy? Est-ce que vous pensez que c'était le cas et est-ce que vous pensez que ça serait encore possible?
Oui, en effet, lorsque j'étais enfant, je pensais que ce serait possible. Aujourd'hui, plus du tout. Vraiment, mais je pense que le monde s'est complètement replié sur lui-même depuis, je ne sais pas quoi, l'attentat des Twin Towers. Ça a vraiment changé un peu les choses. Je ne crois pas que... Non. Après, je ne vois pas comment on pourrait revenir, aller vers le progrès, disons.
Alors, tout simplement. Marc Dachy.
Oui, alors là, c'est intéressant parce que je partage le sentiment de Céleste, mais pas du tout en prenant les mêmes points d'achoppement. Je pense que c'est surtout les expositions d'art dit dégénéré en 37 qui ont porté un coup fatal à la tentative pour les artistes d'avant-garde de changer le monde. Et la destruction d'œuvres, l'assassinat d'artistes, c'est ça qui a complètement empêché de revenir après la guerre, en plus où on avait d'autres soucis, de revenir à l'idée d'un art plein de promesses et même d'une belle naïveté, d'une aube nouvelle et d'une aurore. C'est-à-dire que l'art a reçu un coup terrible.
Mais vous avez raison de dire ça, parce que au fond, ce à quoi on assiste, c'est à la faillite en 1937 avec cette exposition, à la faillite de l'idée d'inventer par les artistes un monde nouveau et au détournement de l'idée de l'homme nouveau par capturé à ce moment-là par le fascisme et la montée des nazismes. C'est ça que vous voulez dire, je suppose.
Oui, absolument.
Céleste, donc je vous trouve un petit peu pessimiste. J'espère que si nous écoutons à présent un extrait du texte de 1920 rédigé par Kurt Schwitters qui explique justement ce qu'est l'esprit Merz, cela va nous inspirer pour continuer l'émission.
J'exige la scène Merz. Où reste donc la scène du théâtre expérimental? Disposez des surfaces géantes. Saisissez-les jusqu'à l'infini voulu, habillez-les de couleurs, déplacez-les dangereusement et détruisez leur virginale pudeur. Faussez et forcez des éléments finis et fondez à l'infini d'autres trouées de néant. Recouvrir de colle les surfaces vierges, câbler mouvement aux lignes, vrai mouvement, monte vrai fil de grillage. ligne flamboyante, ligne rampante, ligne nappante, traversée. Laissez les lignes se confronter et se caresser tendrement. Que les pointes y jettent étincelles, y dansent en ronde et donnent ensemble naissance à la ligne. Ployez les lignes, cassez et brisez les angles serrés, tournant autour d'un point. Qu'une ligne tangible de fer passe telle une tempête de vagues mugissantes. Que les boules roulent et tournent boules en bulles tourbillonnantes. Désunir les surfaces s'interpénétrant. Caisses pointent en l'air, peintes d'aplomb et de travers. Chapeau, claque, s'aplatit, étouffe, caisse, coffre. Tirer des lignes dessinant la scie glacie. La scie cernée délace martyr d'Antoine. Faites déferler dès la scie, se fondre en ligne, devenir surface, lasser la scie. Faites flotter des voiles, tomber de doux plis, faites goûter la ouate et jaillir l'eau. Pomper de l'air tiède et pur dans des lampes à arc à 1000 bougies. Prenez ensuite des roues et des essieux, dressez-les et faites-les chanter. Roues géantes. Les essieux dansent, mi-roues, boules, roules, barils. Les roues dentées, flairent des dents, découvrant machine à coudre bâillant. Dressez ou tapis, la machine à coudre se décapite les pieds en avant. Prenez la roulette d'une fraise de dentiste, un hachoir à viande, un racloir de rails de tramway, des omnibus et des automobiles, des bicyclettes et des tandems, leurs pneus, les pneus de secours datant de la guerre aussi, et détournez-les. Prenez un projecteur et déformez-en la lumière brutalement. Faites s'entrechoquer des locomotives, faites danser rideaux et portières, telle une toile d'araignée dans le châssis d'une fenêtre, et brisez la vitre gémissante. Faites exploser des chaudières à vapeur pour fabriquer de la fumée de chemin de fer. Prenez des jupons et autres choses semblables, des chaussures et faux cheveux, des patins à glace aussi, et balancez-les au bon endroit, là où il faut, et toujours au bon moment. Des charges auto-explosives, des machines infernales, un poisson en tôle ou un entonnoir, le tout artistiquement détourné, évidemment. L'utilisation de tuyaux est vivement conseillée. Bref, servez-vous de tout. Du filet à cheveux, de l'élégante, comme de l'hélice de l'impérator. Et toujours en fonction des proportions exigées par l'œuvre. Kurt Schwitters, Merz, 1920.
Nous sommes donc sur France Culture et nous examinons cette œuvre sublime de Kurt Schwitters, le Merzbau, et nous venons d'écouter un de ses poèmes de 1920. Céleste Boursier-Mougenot, vous êtes avec moi pour en parler. Vous avez entendu ce poème, je vous entendais faire des exclamations dans le studio.
Ah oui, ça m'a beaucoup plu, vraiment. Je connaissais la Ursonate, ou la Ursonate, la sonate de son primitif. J'ai lu il y a très longtemps, ou feuilleté des livres sur Schwitters, mais je ne me souvenais pas de poème aussi bien écrit et intéressant et ouvert. 1920, c'est pas mal, quoi.
Alors, Marc Dachy, vous qui êtes avec nous pour nous soutenir dans cet effort, l'écriture de Kurt Schwitters, est-ce que vous pouvez nous en parler un petit peu ?
D'abord, je suis touché que vous ayez choisi ce texte, qui est certainement un des plus virevoltants de Schwitters. Il a paru dans le recueil Anna Blum, chez Champ Libre, Les Bovici, Ivrea, oui. Qui a publié aussi en 1990 un gros volume d'écrits. l'écriture de Schwitters, comme vous le voyez là, elle est aussi à double détente, c'est-à-dire que c'est soi-disant un texte théorique pour le théâtre, mais on voit bien que rien n'est absolument réalisable. C'est donc un texte soi-disant programmatique pour du théâtre, mais en fait, ça devient un poème. Et il passe son temps à détourner les choses comme ça.
Un pur poème, et il y a un des poèmes très célèbres dont vous parliez à l'instant, Céleste Boursier-Mougenot, qui est l'Ursonate, la sonate des sons primitifs. Marc, est-ce que vous pourriez nous dire un mot sur les circonstances de l'écriture de cette Ursonate ?
Alors, c'est un travail assez long, donc c'est une chose assez comique, puisqu'il a fait un voyage avec son ami le dadaïste berlinois Raoul Haussmann. Ils sont allés à Prague, et Raoul Haussmann avait avec lui son poème affiche, FSBTW, et Schwitters a commencé à jouer avec ça. Devant lui, dans le train, il a publicité ça, etc. Il en a fait un petit poème sonore qu'il a appelé Portrait de Raoul Haussmann. Seulement, Schwitters n'a pas lâché le morceau et il a continué à faire, jusqu'à en faire une sonate, c'est-à-dire une véritable sonate, dont j'ai publié la partition dans chez Champs Libres. C'est une véritable partition et elle a fait peut-être le chef-d'œuvre de poésie sonore.
Ok, il attachait beaucoup d'importance puisque à la fin de sa vie, il considérait que les deux chefs-d'œuvre qu'il avait réalisés, c'était l'Ursonate et évidemment la cathédrale de la misère érotique. Céleste Boursier-Mougenot, que pensez-vous de cette relation de l'artiste à la musique qui essaye de sortir des mots, une architecture secrète qui serait justement musicale ?
Eh bien, je voyais tout à l'heure le livre de Marc Dachy avec... L'art n'est que rythme, je crois, il me semble. Enfin, c'est ce que j'en ai retenu, la citation de Kurt Schwitters. Où l'art n'est que du rythme. Donc, je trouvais ça très intéressant de rapprocher l'Ursonate que je connaissais.
Parce que ça a une influence dans votre travail, la relation, le son qui devient plus que du son, qui devient de l'architecture, qui devient de l'installation.
C'est-à-dire que... Pour moi, Urs, c'était lié à l'origine, quoi. Les sons originaux, on pourrait dire initiaux, ou des sons primitifs. Et je ne sais pas s'il accordait, si pour lui, il y avait une relation de sens avec ces sons, ou si c'était une pure œuvre phonétique, quoi, en fait.
Qu'est-ce que vous en pensez, Marc Dachy ? Est-ce qu'il y a une signification ?
Oui, Céleste pose une bonne question. Parce que je pense qu'effectivement, ce n'est pas une sonate de sons primitifs. C'est au contraire des sons soigneusement élaborés. C'est-à-dire que quand Haussmann a conçu son poème affiche, c'était véritablement pour avoir des choses tout à fait élaborées et qui n'appartenaient pas au domaine de la littérature. C'est une œuvre très concertée. Ce ne sont pas des sons primitifs.
Je comprends.
D'ailleurs, on le voit bien dans le développement de la sonate. C'est quelque chose de très concertée.
Vous voulez dire que ce ne sont pas des borborygmes ?
Non.
Mais c'est une composition musicale extrêmement précise, au fond, puisqu'elle reprend vraiment la forme de la sonate. On l'appelle, c'est une sorte de scherzo. Et il a tenu à l'enregistrer juste avant de partir d'Allemagne, puisque les enregistrements que nous avons sont du tout début des années 30, je crois, à me souvenir.
L'enregistrement date de 1932, quand même.
L'enregistrement est de 32, oui, c'est ça. Donc oui, il n'est parti qu'en 37, c'est 32, c'est l'époque où une partie des dadaïstes, d'ailleurs, sont partis d'Allemagne, je pense à Grosch, par exemple. Est-ce que je me trompe ?
Oui, oui, il a été beaucoup plus avisé, et à Haussmann aussi, et je n'ai jamais compris soit l'extrême confiance, ou la naïveté de Schwitters, ou l'audace, ou la témérité, de rester jusqu'à la toute dernière minute. Il n'a pas quitté volontairement, il est allé... en villégiature, et sa femme lui a dit « Surtout ne reviens pas, la Gestapo est venue te chercher. »
Je pense qu'il y avait aussi la volonté de protéger jusqu'au bout son œuvre et toutes les archives qu'il avait accumulées dans tous les greniers là-bas. Alors, Le Merzbeau, je voudrais y revenir avec vous aussi, Céleste.
Avant, j'avais une petite question là sur Ursonate. Je voudrais savoir qu'est-ce qu'on en sait exactement. Vous avez dit tout à l'heure, Marc, que c'était un processus. J'ai compris que c'était un processus lent. Comment c'est sorti ? Il y a eu plusieurs versions ?
Oui, il y a plusieurs versions. Je les ai publiées dans un volume en 90. Oui, il a fait des petites versions, des versions plus longues. C'est effectivement un lent travail d'élaboration. Il a fini par en confier la, typographie au fameux Jan Spiekel, s'il ne voulait pas le faire lui-même. Oui, oui, c'est une œuvre patiemment construite au grand dam de Raoul Haussmann, qui s'est senti dépossédé de son poème affiche, mais pour son âme, ça n'a plus rien à voir avec le poème affiche.
Alors, il faut se rendre compte qu'on est quand même dans une période où le son, le mot a une importance considérable. Le premier, ou l'un des, pas le premier parce que le futurisme était là, mais l'un des personnages importants sur le mot, ça a été évidemment Hugo Ball avec son poème Caravane, qui a été l'inauguration du mouvement Dada donc au Cabaret Voltaire en 1916. Alors est-ce qu'on peut dire que Schwitters est dans cette tradition ou est-ce qu'il amène quelque chose qui n'y était pas encore ?
Sincèrement, pour moi, il n'est pas dans cette tradition.
Pourquoi dites-vous cela ?
Parce que l'inspiration et le rythme est très différent.
Vous trouvez que c'est beaucoup plus musical, peut-être moins provocant et beaucoup plus construit ?
Oui, il y a quelque chose dont les témoins se sont toujours amusés. Il y a quelque chose de prussien et d'autoritaire dans la façon dont Schwitters déclame. Tandis que les poèmes de Hugo Ball, par exemple, quelque chose de terriblement joyeux. On voit bien que c'est totalement inventé. C'est très proche du langage enfantin. Pour moi, c'est très différent. D'ailleurs, la question est que pas du tout sûr que Schwitters ait connu les choses de Ball.
C'est peut-être un peu ça nous ramène à une forme machinique plutôt aussi, il me semble.
Oui, c'est là où il est assez fascinant parce que il y a quelque chose qui les rapproche de Gertrude Stein.
J'y pensais, oui, tout à fait.
Oui. Il y a quelque chose de la force de la répétition qui est jouée, qui est très beau, et évidemment pas du tout là, comme ça chez Hugo Ball. Et quand vous parliez tout à l'heure, genre des futuristes, moi j'entends surtout les futuristes russes, évidemment, avec Klebnikov, Kruchonik, et c'est effectivement une position sonore d'un tout autre tonneau.
Alors, il faut savoir qu'effectivement, il y avait une connaissance de la poésie et de l'art russe à travers, par exemple, la présence de Lissitzky, l'amitié de Lissitzky et de Kurt Schwitters, si je ne me trompe pas. On va y revenir, mais j'aurais bien aimé que nous écoutions un extrait de l'Ursonate que je voudrais précéder d'une lettre qu'a écrit Schwitters à Marguerite Hagenbach, qui deviendra d'ailleurs la seconde épouse de Jean Harpe, le 25 février 1945, à propos du Merzbau qui avait déjà, à ce moment-là, été détruit.
Chère mademoiselle Hagenbach, dans votre lettre, j'ai appris que le Merzbau, ainsi que beaucoup de mes œuvres, n'existe plus. C'est évidemment triste, mais plus pour d'autres que pour moi-même. Le plus important pour moi, c'est la création d'un travail. J'ai le moyen de dire aux gens comment on devrait peindre, sculpter ou faire de la poésie. L'histoire en a décidé autrement et le Merzbau ne communique plus. J'ai créé une autre œuvre unique, la Ursonate, qui est perdue si je ne suis plus capable de la présenter. Il serait facile de la parler dans un gramophone, mais qui veut s'engager dans ce sens? Mon fils Ernst a peut-être raison de dire qu'il ne faut pas surestimer la valeur de l'art. Les hommes sont plus importants que les œuvres d'art mortes. Kurt Schwitters, 25 février 1945.
Céleste Boursier-Mougenot.
Oui, je remarquais le côté comme des tons en chinois, en fait, les mêmes phonèmes ou syllabes répétées qui sont. C'est virtuose, en fait.
Non, c'est très virtuose. Mais néanmoins, je me demande si ça n'est pas une attaque contre le phrasé politique. Je me souviens de l'attaque qu'avait fait, au fond, là encore, Hugo Ball et tous les dadaïstes contre les mots, les vocabulaires corrompus par le journalisme. Et il y a la revendication de repartir vers un langage qui ait une pureté originelle. Et peut-être que ce n'est pas une sonate archaïque, au sens une sonate de l'origine d'autrefois. C'est plutôt une sonate qui a cette pureté originelle. Je me demande ce que vous en penseriez, Marc Dachy.
Oui, c'est exactement ce que je pense. Il faut resituer Gobal en 17-18, au moment où les médias commencent à prendre une grande importance, la presse, etc., par rapport au conflit mondial, etc. Les médias sont de plus en plus un instrument de manipulation et de conditionnement. Et donc cette position, elle est à la fois théorique, manifestaire, et elle a son sens.
Alors, Marc Dachy, permettez-moi d'interroger, alors, puisque vous allez dans ce sens-là, Céleste, sur son impression que vous nous en donnerez les fondements historiques s'il y a lieu. Si l'Ursonate est effectivement une sorte de contradiction à l'égard des discours préformés du milieu politique de l'époque, est-ce que, pour vous, le Merzbau, cette grande architecture qu'a créée Kurt Schwitters, ne serait pas un contrepoids à l'architecture très refroidie des monuments politiques qui sont en train de naître dans l'Allemagne et de l'architecture conventionnelle de l'époque?
Je préférerais considérer les choses pour elles-mêmes plus que de les remettre dans cette perspective de réaction, en fait. Pour ce qui me concerne, je veux plutôt qu'on s'y dans ce cas-là, on pourrait dire alors les collages de Schwitters.
Mais pourquoi pas
Reprennent l'affiche de propagande.
Non, contredisent. Oui, contredisent.
Reprennent, enfin, ou critiquent. Ou...
Qu'est-ce que vous en pensez, Marc Dachy?
Je pense qu'à l'époque, tout atteinte au discours à la langue classique est une réponse à une situation complètement bloquée et une revendication pour une langue inventive, propre aux artistes, et une rébellion contre le caractère militaire de la grammaire.
Et donc, notre cathédrale de la misère érotique, j'ai quand même une question à poser, puisque là, j'essayais de l'opposer à l'architecture de l'époque, l'architecture qui commençait, de la grande architecture froide du fascisme qui naissant. Est-ce que l'on pourrait mieux comprendre pourquoi il l'appelle la cathédrale de la misère érotique? Ce simple mot, au fond, on n'a pas encore dans l'émission abordé cette question.
Ah oui, alors, j'ai peut-être pas été assez explicite, ou bien on n'a pas évoqué. Oui, il y a tout un petit drame dans cette histoire, puisque la colonne, au départ, toute modeste soit-elle, au-dessus d'une colonne d'un mètre vingt, il y a le moulage de tête d'enfant. Et c'est l'enfant que Schwitters et sa femme ont perdu. Et donc il a mis un moulage. Donc c'est un caractère catafalque et funèbre. Et donc cette appellation, c'est vraiment la misère érotique, c'est-à-dire la misère d'érotisme a donné la mort.
Mais en même temps, c'est toujours...
C'est
blanc. C'est pas non plus... donc c'est lumineux.
Le blanc a souvent été, surtout en Allemagne, et d'ailleurs à cette époque, une couleur de deuil.
Donc sur cet aspect-là, j'aimerais revenir sur cette question et de la couleur et de la cathédrale de la misère érotique. Nous parlons toujours de ce Merzbau extraordinaire donc, à Hanovre. Lorsque l'on voit les reconstitutions de ce Merzbau, on les voit effectivement blanches. Lorsque l'on voit quelques photos, on voit que l'accumulation des objets amène des couleurs. Il y a des tableaux, des branches, des sculptures, des sortes de collages qui ont lieu dessus. Et ça amène quelque chose de plus charnel.
Oui, alors c'est toute l'histoire. C'est que le Merzbau est immaculé. Il est blanc, il fait penser un peu aux surfaces suprématistes, constructivistes, il y a un côté Malevitch dans tout ça.
On l'a associé aux architectones de Malevitch, c'est-à-dire aux constructions architecturales, spatiales presque, de Malevitch, voilà. En effet. Oui.
Absolument. Et par contre, dans le collage et les assemblages, il est totalement libre, il utilise la couleur des matériaux, parfois leur forme, mais il est très sensible à, comme vous savez, à des couleurs qu'il ne crée pas lui-même. Certes, il a peint, il a parfois une palette en main, mais il adorait récupérer un bleu ou un jaune au sol, le garder et l'utiliser 3 mois plus tard dans un tableau.
Oui, les collages sont très construits et le format est souvent c'est très souvent très petit.
Oui, enfin il y a des grands tableaux aussi, mais il y a une anecdote assez belle. Ils sont en balade avec Raoul Haussmann et il trouve un petit morceau, un triangle bleu, et il dit à Haussmann, attends. Et il prend ce truc au sol, il ouvre sa mallette et il y a un collage où il manquait exactement ce petit coin bleu qu'il a collé sur place. Et l'œuvre était achevée, elle se trouve dans un musée japonais. C'est une belle histoire, je l'ai reproduite dans les archives d'Anna. Et c'est amusant parce qu'on a l'anecdote et le tableau.
Alors, Céleste Boursier-Mougenot, je voudrais vous poser encore une question et encore une fois, Marc Dachy interviendra. Il y a dans cette grande construction des plans qui viennent se développer de façon organique et qui vont cacher peu à peu des éléments qui s'y trouvent et qui font que l'œuvre se développant comme la vie même, des œuvres sont contenues et devenues invisibles à l'intérieur de la structure. Et donc, on a l'impression que l'objet se charge comme se chargerait une sculpture africaine, d'une certaine façon, d'une vie qui a eu lieu et qui est contenue, mais qui n'est plus visible. Qu'est-ce que vous pensez de cette charge par l'invisible d'une œuvre visible ?
Ça, je trouve ça vraiment fascinant, quoi, de penser que l'œuvre engloutit de l'énergie, en fait, et peut-être la restitue.
Qu'est-ce que vous en pensez, Marc Dachy ?
C'est un point essentiel. L'œuvre est essentiellement impressionnante sur le plan plastique, mais comme il ne peut jamais se contenter d'une seule signification, il est totalement polysémique puisqu'il lui insère des éléments autobiographiques, des lettres, des objets ayant appartenu aux amis.
Et même des pots d'urine.
Oui, et puis il y a ce très beau texte où il explique ce qu'il y a dans cette Masbo, et on reste ahuri parce que apparemment c'est une très belle construction immaculée, virginale, et puis plus il en parle, plus ça devient une œuvre complètement littéraire.
Céleste Boursier-Mougenot.
Ce qui est frappant dans le Merzbau, c'est que c'est quand même une œuvre dans laquelle on rentre. C'est impénétrable, on pourrait dire, ou c'est un environnement, quoi. C'est une architecture, ça n'est pas une œuvre qu'on contemple de l'extérieur.
Absolument.
Alors, je voudrais que nous écoutions encore un texte de Kurt Schwitters qui nous parle de sa vision de l'art. C'est en 1929, dans Little Review, un article qui s'appelle « À mon sujet, par moi-même ».
Il m'importe peu d'être peintre. En revanche, il m'importe d'avoir une profession qui me permette de créer et de travailler. Et je crois que si j'étais devenu ingénieur, j'aurais été assez satisfait de ma vocation. Et si, par exemple, j'avais dû être professeur, je crois que j'aurais certainement travaillé à la réforme de l'enseignement de sorte que je me serais rendu aussi peu désirable que je suis à présent avec ma peinture et ma poésie. En somme, les gens devraient se réjouir que je sois devenu un artiste. L'art d'aujourd'hui est une affaire remarquable. Dans la mesure où il s'agit d'art, il ne diffère en rien de l'art passé. Dans la mesure où il ne s'agit pas d'art, il diffère juste à peine des balivernes du passé. L'art est par-dessus tout formation seulement, création. Pour cette raison, il est bien différent de la croissance d'une plante ou d'un cristal, de la vie d'une étoile ou de la construction d'une machine. Il me semble à moi-même être un homme totalement pensant qui, avec d'autres hommes pensants plus ou moins, et une multitude d'individus absolument idiots, est enfermé dans une espèce d'asile malsain où l'on passe son temps à lire de la poésie classique. Si l'on me demandait pourquoi je vis dans cette maison de fous, je donnerais la même réponse que si l'on me demandait pourquoi j'ai visité ce musée où fleurissent les citronniers, pour observer et prendre note.
7YXVVUTSRQPONMLKIH.
Kurt Schwitters, à mon sujet par moi-même, 1929.
7YX,
Nous sommes toujours sur France Culture et nous écoutons Kurt Schwitters et nous essayons d'explorer son chef-d'œuvre disparu qui s'appelait le Merzbau, qui fut construit à Hanovre entre 22 et 37. Et dans ce Merzbau, il y avait sur un quart de la surface du bâtiment, très peu de place puisque c'est 9 mètres carrés environ, il y avait sur près d'un quart de la surface, disais-je, une grotte étrange, une grotte d'amour. Qu'est-ce que vous pensez du fait de donner, dans cette architecture où il vivait, Céleste Boursier-Mougenot, une importance telle à cette grotte d'amour?
Déjà, pourriez-vous nous en dire un peu plus sur le sens de cette grotte d'amour?
Alors, on va se tourner vers Marc Dachy au téléphone. Marc Dachy, qu'est-ce qu'on peut dire de cette grotte de l'amour?
Que Schwitters avait épousé sa cousine, en vérité, et qu'il a... Donc il y a eu cet enfant mort-né, et je pense qu'il a écrit un texte caricatural et absolument effrayant, puisque il y a une dame pipi, il y a une petite fille qui est massacrée, il y a un côté sadique dans ce texte aussi, dans ce passage. C'est un auteur très 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 multiple, Schwitters très provocant. Son recueil Anna Blum s'est vendu à des milliers d'exemplaires, mais on n'a pas compris que le texte central Anna Blum était d'une ironie terrible. Anna Blum, on peut aimer aussi bien par devant que par derrière. Évidemment, c'était une allusion palindrome, mais pas uniquement. Et c'était un chenapan ironique, Schwitters. Il avait un humour, comme beaucoup d'Hanovriens, un amour britannique, pas sans rire.
Et d'ailleurs, beaucoup de ses amis artistes avaient du mal à le supporter, tellement on ne savait pas sur quel pied danser avec lui. Mais au fond, l'utilisation du mot « Merz » montre bien qu'il veut faire sauter la banque, d'une certaine façon. C'est-à-dire qu'il refuse et le « com » de Commerzbank et le « bank » de la Commerzbank, puisque je crois pouvoir dire que le mot « Merz » vient bien de ce mot « Commerzbank » découpé dans un de ses tableaux en 1919, non, à peu près?
Absolument, absolument. Tableau a été détruit par les nazis très vite.
Pourquoi Merz, malgré tout? Est-ce que c'est... Pourquoi quatre lettres?
Alors, on ne peut pas répondre à sa place, mais je constate que c'est comme Dada.
Disiez-vous, oui.
Je crois qu'il s'est beaucoup amusé à découper. Je pense que ça a beaucoup d'identification dans une époque où les œuvres ne valaient rien et ne revendiquaient pas une valeur commerciale, de déchiqueter le vilain mot de banque de commerce pour en garder la syllabe Merz.
Qui peut-être...
J'ai toujours pensé à Merz Kenningham, voyez-vous.
Ah oui, moi je pensais plutôt au merdre de Jarry, oui. Parce que je pense que ça doit flotter dans cet étrange monde, parce qu'il y avait, semble-t-il, dans le Merzbau, une curieuse odeur.
Oui, alors on a dit ça, mais bon, enfin, j'y étais pas. Elle n'a pas dû durer très longtemps.
J'ai lu que l'odeur qui était dans ce Merzbau était l'odeur de la vie technique de l'artiste. La colle,
l'élange d'huile de l'enfant. Oui, c'est très amusant. Il y avait une espèce de porridge qui était en train de cuire sur le poêle.
Quelques ratons laveurs.
Voilà.
On m'a parlé d'araignées, d'escargots.
Non.
Ah bon?
Ah bon? Enfin, si vous m'exhibez les sources, je serais intéressé. On ne prête qu'aux riches, mais là, c'est trop.
Céleste Boursier-Mougenot, vous avez l'air intéressé de la façon dont, derrière cette architecture à la fois extrêmement complexe et pourtant très blanche, comme vous le soulignez tout à l'heure, il y ait une infinité de contenu. Qu'est-ce que ça contient, une architecture comme cela? C'est un cabinet de curiosité? Comment est-ce que vous diriez?
Tout dépend de comment se place du point de vue de la construction. Je veux dire, on était en 1920 ou entre les années, dans les années 20-30, et donc c'est très différent d'aujourd'hui. Mais
alors, regardez-le d'un autre point de vue. Est-ce que vous voyez une relation entre cette œuvre intime, Céleste Boursier-Mougenot, et l'œuvre de Marcel Duchamp, par exemple, étant donné? Vous savez que Marcel Duchamp avait visité, je crois, en 1929, Kurt Schwitters, qu'il connaissait cet endroit. Est-ce que vous trouvez qu'il y a une relation dans l'œuvre d'art totale entre les deux?
Je crois qu'il n'y a pas de projet d'œuvre d'art totale. Je crois pas tellement que ça se passe comme ça. Je pense que c'est plutôt les choses se...
Vous voulez dire chez les artistes en général ? S'imbriquent
et se développent dans différents champs de production, que ce soit musical, lumière, construction, peinture, théâtre, danse. Je vois pas pourquoi on aurait le projet comme ça. C'est très emphatique, quoi, cette idée d'art total.
Le facteur cheval l'avait, par exemple.
C'était de l'art brut, il me semble.
Oui, je suis d'accord avec Céleste.
Marc Dachy.
Je verrais plutôt un lien entre le Merzbau et Frank Gehry, par exemple.
Frank Gehry, disiez-vous, ce grand architecte californien qui invente des structures déconstruites grâce aux ordinateurs. Et j'ai souvent pensé, moi aussi, qu'il y avait une relation presque avec l'architecture numérique d'aujourd'hui et qu'il essayait de faire quelque chose que les de la technique ne permettaient pas tout à fait alors.
Absolument. Et puis c'est une grande inventivité. Et cette inventivité n'a reparu que plusieurs décennies après.
J'ai lu quelque part qu'il était ami avec Theo von Doesburg.
Ah oui, ils ont été très liés.
Qui était lié lui-même avec Mondrian, il me semble.
Oui, alors Theo von Doesburg, évidemment, c'est le chef de file du style, la revue, le groupe Mondrian, Bart van der Leck, lui-même.
Mais Marc Dachy, excusez-moi, sur Theo von Doesburg, donc effectivement, c'est Theo von Doesburg qui a présenté Schwitters au Bauhaus et qui lui a permis de rencontrer l'équipe du Bauhaus, je crois assez tôt, juste avant que Schwitters commence son Merzbau. Mais Van Doesburg n'était-il pas un être à double identité? N'était-il pas à la fois Van Doesburg et Bonset?
Oui, 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 ça c'est très passionnant. Et il a joué sur les deux tableaux. Il a organisé un jour, en octobre 22, une réunion en tant que professeur invité au Bauhaus, à Weimar donc, et il a invité tous les dadaïstes. Art, Zara, Kurt Schwitters, d'autres. Et ils sont venus, et ça a été une espèce de clash joyeux, parce que les architectes très sérieux du Bauhaus ont résisté et en même temps se sont laissés séduire.
Parce que Céleste, donc, il s'agit de ce fameux Bonset, qui est la version dada de Van Doesburg, qui avait cette double orientation dans sa pensée. Artiste très complexe, et peut-être beaucoup plus complexe qu'on l'imagine, puisque les origines théosophiques de son travail ont donné lieu à des œuvres abstraites très étranges au début de sa carrière. Cher Céleste Boursier-Mougenot, quand vous pensez à cet artiste à la fois musicien, plasticien, qui fait feu de tout bois, vous pensez un peu à vous-même aussi ?
Non, c'est pas moi qui pense à moi-même, c'est vous qui pensez à moi-même, vous me posez la question. Mais enfin, c'est un véritable phénomène artistique, Kurt Schwitters. C'est évident qu'il a marqué énormément. Et il a, par exemple, ne serait-ce que la poésie sonore, on pourrait dire. Oursonate, on peut dire que c'est peut-être une des manifestations dans la modernité de la poésie sonore des premières, je suppose.
Avec une influence énorme, effectivement, sur tous les artistes de la poésie sonore dont nous avons parlé, jusqu'à Bernard Hitzig, dont nous avons parlé il y a peu de temps. Et justement, je pense que cet aspect-là a été relevé par l'ensemble des livres sur le dadaïsme. Et je voulais demander à Marc Dachy si, dans le fameux livre d'Ilias, de la poésie des mots inconnus, figurait l'oursonate de Kurt Schwitters.
Non, pas du tout.
Comment ça se fait?
D'abord parce que le texte en est beaucoup, beaucoup trop long. C'est un texte qui fait une trentaine de pages. Et Zdanevich a repris seulement un morceau d'un poème phonétique de Kurt Schwitters. Je pense qu'il a repris, enfin j'en suis même sûr, une des esquisses de l'oursonate, mais sans plus.
Et lorsque l'on demande, Céleste pose la question de savoir s'il y a une influence sur la poésie sonore, alors on se doute que oui, mais je serais curieux de voir comment elle est passée par les États-Unis, par exemple. Il n'y avait pas eu un livre très important d'un grand peintre sur le dadaïsme?
Oui, bien sûr. Il y a ce livre fondamental de Robert Motherwell en 1951, chez Wittenborn, un livre qui a manqué cruellement dans le domaine français. c'est un livre assez important, et Madeleine, qui était francophile, a fait un livre qui s'appelle Dada Painters and Poets, et il a révélé quasiment tout le dadaïsme européen aux Américains. C'est comme ça que Allen Ginsberg a, par exemple, découvert les manifestes de Tristan Tzara, qu'il est venu le voir à Paris d'ailleurs par la suite, et ils ont découvert beaucoup de choses pour la première fois dans l'anthologie de Motherwell.
Alors, cher Marc Dachy, je propose, chère Céleste, je vous remercie de tout ce que vous avez dit, et je vous propose qu'on finisse l'émission avec un poème de Schwitters de 1934, « Pierre sur pierre ».
Ah oui, c'est très beau, oui.
Pierre sur pierre, voici la construction. Non comme somme, la construction est forme. La construction est forme à partir de la masse et de l'espace. Les mains créent la forme et lui donnent la couleur. Elles donnent davantage le temps. Les mains qui créent donnent à l'espace tout ce que l'homme créateur est, son monde. Dans la forme, dans le jeu des formes, des couleurs, des images, des lois et même des choses que l'on ne nomme pas dans la construction, le temps vit dans l'espace pour tous les temps. L'espace devient ainsi égal au temps. Il signale la mise en forme éternelle. Kurt Schwitters, Stein auf Stein ist der Bau, 25 Dezember 1934.
C'est donc là-dessus que nous nous quittons. Merci, cher Marc Dachy. Vous avez publié récemment aux éditions Sens et ton cas le fameux livre Cathédrale de la misère érotique, qui est absolument passionnant. Merci beaucoup, chère Céleste. Je rappelle qu'il y a une nouvelle exposition qui commence dans quelques jours.
Merci beaucoup et merci à Céleste et bravo.
Merci infiniment.
Merci Marc, merci Jean.
Je crois sincèrement que le tableau est autant fait par le regardeur que par l'artiste.
C'était Les Regardeurs, une émission en partenariat avec Beaux-Arts Magazine. Aujourd'hui, nous avons observé une œuvre exceptionnelle, un chef-d'œuvre de l'art total, unique dans l'histoire de l'art, la cathédrale de la misère érotique, ou Merzbau, construction Merz, réalisée par Kurt Schwitters entre 1922 et 1937 environ. Je vous rappelle que vous pouvez vous procurer le livre de notre invité, Marc Dachy, sur le Merzbau, aux éditions Sens et ton cas, paru en février 2015. Vous retrouverez toutes les références des livres et des musiques sur le site franceculture.fr. Attaché d'émission Sylvia Favre, merci Sylvia. Lecture des textes Andrea Schiffer. À la technique Jean-Richard Dufour. Et réalisation l'excellent Franck Lilin. Les Regardeurs, une émission de Sandra Adam et Jean Deloisy. Et tout de suite, vous retrouvez Michel Simon avec Projection Privée.
Come before you go, babe. Until you come, babe. Come until you go, babe. Go to come for.